Emmanuel Bov, un Raskolnikov. Jean Garnier s'assit dans le seul fauteuil de sa chambre misérable. Il neigeait depuis la veille et les flocons venaient se poser sur les vitres des fenêtres ainsi que des insectes sur un mur. Jean Garnier regarda ses chaussures usées. « Vous êtes mouillé si je sors, pense-t-il. Mais si je reste, qu'est-ce que je vais faire ?» Il se leva, alluma une cigarette. Il n'avait pas soif, il avait envie de boire. Il n'avait pas faim, il avait envie de manger. Il jeta sa cigarette car il n'avait pas envie de fumer. Dans l'air froid de sa chambre, pourtant close, une odeur désagréable flottait. « Je suis tout de même pas un zéro !» murmura-t-il. Il s'approcha d'une glace. « Toi, zéro !» Et avec une brusquerie inattendue, comme s'il eût voulu blesser un ennemi, il tourna le dos à son image, hésita quelques secondes. Il ne savait que faire, se rasseoir dans le fauteuil. Il ramassa la cigarette qu'il avait jetée, la ralluma. « Mais où suis-je ?» se demanda-t-il en souriant. Finalement, il se laissa tomber dans le fauteuil. Il somnolait depuis quelques minutes lorsqu'on frappa à sa porte. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il machinalement. « C'est moi !» répondit une voix de femme. Il alla ouvrir et se trouva en présence d'une jeune femme d'aspect souffreteux qui pourtant ne semblait même pas se rendre compte de sa déchéance. Jean Garnier alluma une cigarette, puis narquois, il toisa la nouvelle venue. « Tu n'as pas honte, dit-il, d'être une pauvresse. Tu n'as pas honte d'inspirer de la pitié à tous les gens qui te connaissent. Tu n'as donc pas le moindre dignité au fond de ton cœur. Tu vis donc comme une bête. Un homme t'offre à boire, tu le suis. Il te conduit dans une chambre infecte comme celle-ci, tu le suis encore. Tu lui demandes rien avant, mais après, à cet heureux repus, tu essaies de soutirer de l'argent. Et tu vis, et tu as le corps parfait des êtres humains, des mains à cinq doigts, des pieds à cinq doigts. Pauvre déchu que tu es, mais tu comprends donc pas qu'il y a autre chose dans ce monde que la bassesse où tu croupis. Tu ne comprends donc pas qu'il y a des êtres supérieurs. » La nouvelle venue écouta cette tirade sans étonnement et sans l'interrompre. Elle était vêtue d'un pauvre manteau de lapin-teint au bouillonnière déchirée. Une toque la coiffait. Cet accoutrement banal, en somme, donnait à cette femme accablée sous les sarcasmes quelque chose d'encore plus dramatique. Mais Jean Garnier ne semblait pas sensible à ce drame. Il suivait une idée fixe. La misère, le désœuvrement, le peu de goût qu'il avait à tout, le rendaient dur envers autrui. « T'es une pauvre loque, » continua-t-il, « t'as même pas le respect de toi-même. N'est-ce pas que c'est vrai ?» Elle hocha la tête en signe d'acquiescement. « Mais tu pourrais travailler comme tout le monde, pourquoi ne le fais-tu pas ? Tu préfères donc mendier, recevoir des menaces et des coups, te prostituer à n'importe quel homme sale et grossier ?» Violette se mit à pleurer. Le tableau que faisait d'elle le jeune homme ne la surprenait pas. Quand elle se donnait la peine de réfléchir, ce qu'il venait de dire était bien ce qu'elle pensait d'elle-même. Mais d'ordinaire, elle aimait mieux ne pas penser. « T'as raison, » se contentait-elle de répondre. Alors il se passa une scène imprévue. Jean Garnier, qui jusqu'alors avait témoigné de l'arrogance à Violette, mit un sourire triste, puis il dit « Bof, tu es au contraire un ange !» Tu traverses la souffrance, la laideur, en gardant intact ton cœur. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Ceux qui voudraient te faire un reproche, envoie-les-moi. Je leur dirai qui tu es, et s'ils ne veulent pas me croire, me battrai avec eux. » Jean Garnier, en prononçant ces mots, était transfiguré. Il se voyait déjà défenseur de la faiblesse humaine. D'un pas nerveux, il allait et venait dans sa petite chambre en proie à une vive surexcitation. Soudain, il s'arrêta, regarda longuement sa visiteuse qui essuyait ses larmes. Est-ce que tu m'aimes ? Lui demanda-t-il. Oui, répondit-elle simplement. Il s'approcha alors de la jeune femme et lui prenant les mains la regarda avec reconnaissance. Aie confiance en moi, dit-il, jamais ne perds cette confiance, et tu verras qu'un jour nous serons heureux. Ce qu'il faut à présent, c'est que nous puissions compter l'un sur l'autre, que toujours nous soyons unis. Sortons, sortons. À cette invitation, Violette retrouva son sourire. Elle croyait dans la vertu de l'espace. Sortir, pour elle, avait toujours été l'espoir, le plaisir, l'inconnu. Mais dans l'escalier, elle fut prise d'un étourdissement et faillit tomber. Jean Garnier eut juste le temps de la saisir dans ses bras. « Mais qu'est-ce que tu as ?»« Oh, rien, rien !» balbutia-t-elle, comme si par sa faute, elle allait être privée du plus grand des plaisirs. « Tu veux que nous remontions ? » ?»«
Oh non, 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 sortons !»
Il était 6 heures du soir. La neige tombait toujours. Les passants se hâtaient de rentrer chez eux, où les attendaient, du moins c'était ce que s'imaginait Jean Garnier, un bon feu, une famille aimante. Ils marchèrent quelques minutes dans le quartier populeux où ils habitaient. Des enseignes lumineuses, rouges, jaunes, vertes, semblaient fondre la neige autour d'elles. « Est-ce qu'on entre là ?» demanda Jean Garnier en désignant un petit café d'aspect misérable, mais chaud. « Ou bien est-ce que nous allons chez la vignole ?»«
Entrons là !»
dit Violette qui n'en pouvait plus. Une douce chaleur les accueillit, toute parfumée d'un dîner qui se préparait dans une cuisine proche. Pour la 1000e fois peut-être, Jean Garnier déplora que les cafetiers ne voulussent jamais, même contre argent, faire partager leur repas à leurs clients. Ils s'assirent à une table à l'écart. Durant quelques minutes, ils n'échangèrent pas une parole. Mais lorsque le garçon vint enfin à eux, Jean Garnier dut parler. Et d'avoir entendu le son de sa propre voix, fit qu'il continua, le tiers parti. « Violette, dit-il, il y a un fait certain, c'est que cette vie ne peut pas durer. Tout le monde sur terre a de l'argent, de l'amour, du plaisir, sauf nous. Tout le monde va, vient et vit, sauf nous. » Et Jean Garnier frappa la table du poing. « Mais cela ne peut plus durer !» Violette le regarda avec étonnement. Dans son âme primitive n'entrait pas l'esprit de révolte. Elle subissait son sort, et au lieu d'essayer de sortir de sa misère, elle s'était peu à peu aigrie à regarder les autres. Son impuissance était telle que de vouloir qu'elle réagît eût été insensé. Brusquement, elle se redressa et sembla sortir de sa torpeur. L'homme qui était à son côté, Jean Garnier, pleurait. D'un seul coup, cette femme qui n'avait aucune raison, semblait-il, de vivre, cette femme qui était la bêtise même, qui jamais n'avait songé même qu'elle était malheureuse, cette même femme se transforma. Elle se pencha vers son voisin, timidement, lui prit une main, et sans oser plus de caresses de peur d'être rabouée, elle lui demanda avec la plus grande des compassions « Qu'est-ce que tu as ?» Il ne répondit pas. Elle s'approcha davantage de lui, encouragée par cette détresse. « Dis-moi donc ce que tu as !» Il balbutia alors quelques mots inintelligibles. Puis se redressant à demi, il dit « Que veux-tu sur terre qui me comprenne ? Mais qui veux-tu qui ait pitié de moi ? Je suis seul, sans rien, et que vais-je devenir ?» Il ne vint pas à l'esprit de Violette, tellement sa misérable existence l'avait rendu modeste de dire qu'il avait elle. Elle le regarda avec une pitié impuissante. Tous deux, bien que réunis, ainsi que tous les couples de ce monde, par les mêmes liens, étaient désespérément loin l'un de l'autre. À les voir ainsi coude à coude, on sentait que l'amour est peu de chose, sans les circonstances heureuses qui lui promettent de s'épanouir. Ils étaient réunis comme tous les amoureux, et ils étaient pourtant des étrangers, l'un pour l'autre. Brusquement, Jean Garnier se leva comme s'il allait partir, puis aussi brusquement, il se rassit. Sa colère contre le monde était si violente qu'il ne savait que faire, qu'il ne savait plus à quoi penser, qu'il était prêt à tout et à rien. « Sortons !» dit-il soudain. Violette, comme dans la chambre, accepta cette proposition avec joie. Ils firent une centaine de mètres sans se parler, sous la neige qui tombait toujours. La foule, bien que l'heure fût plus avancée, était encore plus grande, et les automobiles qui se touchaient tellement elles étaient nombreuses étaient immobilisées. Une immense clameur s'élevait d'elle. C'était comme si la vie elle-même appelait Jean Garnier, comme si ce vacarme était la preuve du tangible qu'il y avait autre chose dans ce monde que son misérable horizon. Ils s'enfoncèrent ainsi pendant une dizaine de minutes vers plus et plus de monde, de bruit et de neige et de lumière. Violette le suivait de son petit pas craintif. Tout à coup, il se retourna. Elle venait de lui dire « Tu veux que je te donne de l'argent ?» Il la regarda un instant sans répondre. « Oui, toi ou une autre, ou tout le monde. Peu importe d'où ils viennent, pourvu qu'ils viennent. De l'argent qui me permettrait de tout faire. Voilà ce que je veux. Voilà mon rêve, voilà le but de ma vie. Mais je ne peux pas t'en donner. » Continua d'une voix plaintive la pauvre fille. Ben, je sais bien, mais tu ne peux pas ni toi, ni les autres, ni personne. Il s'arrêta encore, épuisé d'avoir parlé trop vite. Une sueur fine perlait sur son front. Il essuya de sa main mouillée par la neige. Puis il leva les yeux au ciel. Il était rose de la lumière de la ville, de l'épaisseur de ses nuages de neige. Et cela lui sembla un spectacle saisissant, que cette immensité au-dessus des limites de la ville, au-dessus de l'ordre des constructions humaines, un spectacle qui contrastait avec le monde où il se trouvait. Il comprit qu'il y avait une immensité dont il ne faisait pas partie, dont personne ne faisait partie. Et puisque personne n'en faisait partie, il lui apparut, sous ce ciel grandiose, que c'était sur cette terre surpeuplée à celui qui saurait le mieux se débrouiller. Il se vit d'un instant semblable aux heureux, aux malheureux, aux riches, aux malades. Il ressemblait à tous les hommes, et cela lui donna un frisson de joie. Mais aussitôt après, il lui apparut que ceux-ci avaient raisonné ainsi avant lui, et que c'était pour cela qu'ils avaient si bien su prendre une part du bonheur de ce monde, alors que lui en était incapable. « Marche plus vite !» dit-il à Violette, qui commençait à peiner derrière lui. « Mais où allons-nous » lui demanda-t-elle. Car pour la première fois, elle était lasse de se trouver dehors. « Je ne sais pas, nous allons droit devant nous, avec l'espoir qu'il nous arrivera quelque chose. » « Faut aller au bonheur puisqu'il ne vient pas à nous. Que reste-t-il à des misérables comme nous si ce n'est d'aller de l'avant avec l'espoir qui nous arrivera du nouveau? Marchons tant que nos forces pourront nous porter. Marchons jusqu'à ce que nous ne puissions plus. Et alors on verra bien. Il n'en pourra rien se passer de pire. Sommes-nous pas la médiocrité, la maladie, la faiblesse de ce monde? Faut marcher, Violette. » Elle le regarda avec des yeux éplorés. Ses jambes se refusaient à la porter. L'eau coulait sur son visage et sa pauvre fourrure des nuits de bal de quartier ressemblait à une loque. Jean Garnier s'arrêta pour regarder sa compagne. Il n'avait pas mangé depuis le matin et la migraine battait sa nuque, ses tempes lui faisaient voir tout à travers un halo de dégoût et d'horreur. « Marche quand même !» dit-il sans faire un pas, épuisé qu'il était également. Il ne pouvait plus avancer. Ses pieds étaient trempés. Parce qu'il n'avait pas relevé tout de suite le col de son maigre par-dessus, il ne voulait pas le faire de peur de se mouiller le cou. Il fut pris d'un tremblement et faillit tomber. Un passant le retint, le remit d'aplomb et disparut. « Marchons !» dit-il encore d'une manière somnambulique. « Vous ne pouvez pas rester là. Faut aller quelque part. Faut faire quelque chose et marcher est notre seul moyen. » Violette ne répondit pas. Elle obéit et fit quelques pas, mais Jean Garnier n'eut pas la force de la suivre. Pourtant, il lui cria de loin, « C'est cela, marche, il faut avancer, il faut aller à la fortune et au bonheur, puisqu'ils ne viennent pas à nous. » Violette continuait d'avancer. Déjà, des passants la cachaient par instants aux yeux du jeune homme. Alors, dans un sursaut, il se raidit et s'élança à sa poursuite, comme si en l'abandonnant, elle allait trouver le bonheur et le laisser à son misérable sort. Comme le voyageur, perdu au milieu du désert, trouve l'effort de suivre ses compagnons en route vers une oasis, il réussit à la suivre. Pourtant, il n'y avait pas d'oasis. Quand il l'eut rejointe, il continua à l'encourager. Mais cet effort était au-dessus de ses possibilités. Apercevant un café, il s'arrêta de nouveau et d'une voix complètement changée, dit à Violette, « Entrons nous reposer un instant, je n'en peux plus. D'ailleurs, à quoi cela sert-il de marcher, puisque c'est toujours la même chose? À quoi cela sert-il de courir ainsi, puisque jamais nous ne trouverons de quoi nous rendre heureux? « Mais tu changes ?» demanda-t-elle. « Non, je suis toujours le même. » Mais je suis fatigué. Les lumières de la rue sautillaient sur leur visage. La neige tombait toujours, fondant dès qu'elle touchait le sol et transformant les chaussées en marécages. Ils entrèrent dans le café où des gens secs jouaient aux cartes, où les banquettes étaient sèches, où une douce chaleur flottait ainsi que la joie de vivre. Comme la première fois, ils s'assirent à l'écart. Un doux bien-être les envahit. Il est un instant particulièrement aimé des insatisfaits, c'est celui des transitions. Elle est un luxe pour eux, et dans cette manie, qu'ont certains d'entrer toujours dans d'autres cabarets, il ne faut pas voir les effets du besoin de s'enivrer, mais celui de changer d'état. Ils rentrent, ils sortent, ils commencent par vouloir sortir, puis ils veulent rentrer. Jean Garnier tira une cigarette d'une de ses poches. « Tu la veux ?» demanda-t-il à Violette. « C'est la dernière » ajouta-t-il, pour qu'elle refusât. Mais elle ne refusa ni n'accepta. Elle était indifférente à tout. Il alluma alors sa cigarette avec une allumette du café, une allumette ne lui appartenant pas, et dans sa misère, il eut conscience que c'était un don. « Violette, qu'allons-nous boire ? Ce que tu voudras ?» Il appela le garçon et commanda deux grogs au rhum. Puis il aspira avec une joie profonde la fumée de sa cigarette. « Je fume en ce moment avec plus de plaisir que n'importe quel heureux, » pensa-t-il. « Il n'y a rien de tel que manquer d'une chose pour en apprécier la valeur. » Puis il but son rhum également avec une profonde joie. « Mais qu'est-ce que je veux le plus ? La satiété, après tout. Nous sommes peut-être plus heureux ainsi, n'est-ce pas, Violette ?» Elle le regarda avec stupeur. Elle était femme, elle ne comprenait pas ce joie-là. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle était la dernière des dernières. Et jamais la plus grande satisfaction serait-elle venue la ranimer. Elle n'eût pu croire qu'elle était heureuse. Comment l'eût-elle cru après ce que lui avait dit Jean Garnier, chez lui, avant de sortir? Après avoir passé une dizaine de minutes dans ce calme, brusquement Jean Garnier se leva. « Allons, dit-il, il faut sortir, nous ne pouvons pas rester là. Nous allons manger un sandwich quelque part, et puis on ira au cinéma. » Et demain matin, il ne restera rien pour déjeuner, rien pour l'hôtel, rien pour rien. Ce n'est peut-être pas prudent, nous ferions mieux de garder les quelques francs qui nous restent. Et si je m'engageais dans la Légion? Et si je me tuais? Et si je travaillais? Et toi, si tu travaillais aussi, ouvreur de cinéma par exemple, et moi opérateur, et tous les deux dans le même cinéma, et des payes fixes tous les vendredis, probablement, jour des changements de programme. Alors, tous les jours au restaurant, toutes les nuits dans la chambre, tous les matins au lit, et le journal à lire, et le paquet de Maryland assuré, qu'en penses-tu? J'ai toujours pensé qu'il faudrait finir comme cela. Oui, mais après, nous ne pourrons plus nous arrêter. Dès qu'on s'arrête, c'est exactement comme aujourd'hui. On ferait des économies. Alors, c'est pas la peine de travailler pour si on n'aurait aucun plaisir. Et plus tard? Mais plus tard, ce sera la même chose. Car tu ne t'imagines pas qu'on pourra faire assez d'économies pour vivre de nos rentes. Donc, il faut travailler pour vivre. Mais puisque ne pas travailler nous n'enlève pas la vie, autant ne rien faire, puisqu'on vit comme si on travaillait. Il s'arrêta pour ricaner. Tous ceux-là n'ont qu'à s'arrêter, ils sont comme nous. Mais ils ne s'arrêtaient pas. Oui, mais ils sont comme nous quand même. Il se leva avec une brusquerie telle qu'il faillit renverser la table qui se trouvait devant lui. Un verre roula à terre et se brisa. Le garçon et le patron s'approchèrent. Ici, c'est 1,50 franc le verre. Champ Garnier est une expression méprisante. Et où va-t-on, vu qu'on paye les verres cassés? Ici, monsieur, ici, justement. Allez, dépêchez-vous, je n'ai pas le temps d'attendre. Je ne le paierai pas. J'ai besoin de mon argent pour aller au cinéma. Non, le cinéma passe après les dettes. Allez, dépêchez-vous. Mais Champ Garnier ne voulait rien entendre. Cependant que sa maîtresse, s'animant enfin, prenait parti pour lui, n'étant pas certain qu'un sergent de ville, pour un tel enfantillage, lui donnerait raison, le patron sentait en lui une rage impuissante. Mais il en fut détourné par cette parole stupéfiante de Champ Garnier. Allons, ne te fâche pas, prends ton chapeau et viens avec nous vers le bonheur. Il crut avoir affaire à un fou, et d'un seul coup sa colère tomba. Ce n'était donc pas le sentiment bas qu'il soupçonnait toujours chez ceux qui ne voulaient pas payer. Pourtant, il voulut montrer aux autres clients que, si on ne le payait pas, il était néanmoins chez lui. Il s'approcha de Champ Garnier et, le prenant par le bras, voulut le pousser dehors afin de faire acte d'autorité. Mais à peine eut-il touché le jeune homme que celui-ci, d'un mouvement d'une violence disproportionnée à l'effort qu'il avait à faire pour se dégager, s'écarta. Il était blanc de fureur. On l'avait touché. On avait voulu le pousser. Il ne se maîtrisait plus. Et comme un fou, il courut vers la porte du fond qui donnait sur un lavabo, dans un mouvement sans signification. Puis il revint, toujours en courant, au milieu du café. Les gens s'étaient levés. Il était de plus en plus blême de colère, au point qu'on avait l'impression qu'on pouvait s'attendre à toute sa part. Puis, comme tout le monde se faisait de plus en plus menaçant, brusquement, il se résigna. Il se dirigea vers la porte. Et comme le patron voulait encore le tenir par le bras, il se recula en tendant ses mains en avant, comme ces hommes ivres que les agents refoulent devant eux. Puis d'une voix douce, dénuée de toute colère, il dit: « Au lieu d'être si méchant, viens avec nous. Ma femme est jolie, et nous irons loin, loin, loin. » Le patron eut un sourire de mépris. Puis prenant à témoin les consommateurs, il cria: « Vous voyez cet énergumène? Il veut que je sorte avec lui. » Tout le monde éclata de rire. Des quolibets fusèrent. Champ Garnier avait mis son chapeau à l'envers sans s'en apercevoir, et les mains dans les poches, les jambes écartées, il avait l'air d'un homme ivre qui s'amuse à rester droit sans bouger les pieds. Violette se trouvait à 2 mètres derrière lui, une main sur la poignée de la porte, prête à fuir en cas de danger. Elle tremblait de peur devant ce patron, un colosse, qui, les manches retroussées et la moustache conquérante, s'approchait à présent de Changarnier avec une rage concentrée, prête à exploser. « Et tu t'es assez moqué de moi, Galopin, » dit-il d'une voix tonitruante. « Non content de venir chez moi casser des verres, tu veux encore te moquer de moi devant tout le monde. Allons, sors immédiatement, sinon je t'assomme de mon poing. » Changarnier recula et, obéissant finalement, sortit, suivi de Violette. Il venait à peine de faire quelques pas lorsqu'un petit bonhomme, correctement coiffé d'un chapeau melon, s'approcha du jeune homme. « J'ai assisté à toute la scène, » dit-il d'une voix presque féminine. « Je tiens simplement à vous dire que vous avez bien fait de ne pas trop insister, car cet individu... » Il s'arrêta de parler, se haussa à l'oreille de Changarnier et continua. « Est de la police !» Puis, comme s'il avait annoncé une nouvelle capable de bouleverser le monde, il parut satisfait et attendit le résultat de son indiscrétion. Mais il n'y eut aucun résultat. Changarnier demeura indifférent. Le petit homme en parut à la fois surpris et dépité. Il ne se tint pourtant pas pour battu. S'approchant de Violette, qui suivait les deux hommes à quelques pas en arrière, il lui dit « Vous ignorez sans doute ce que je viens de dire à votre ami. Je viens de lui dire que le patron du café, vous étiez tout à l'heure, et... » Il s'arrêta de nouveau, puis à voix plus basse continua « De la police !» Comme la première fois, il entendit. Cette fois, le résultat fut autre. La jeune femme poussa un léger cri et parut bouleversée par cette nouvelle. Au son de cette voix, Changarnier se retourna. « Mais cela n'a aucune importance, » dit-il. Puis, s'adressant directement au petit homme, « Mais que voulez-vous insinuer avec vos histoires, vous ? Expliquez-vous, d'abord je ne vous connais pas, ensuite laissez-nous tranquille. » « Mais je ne veux rien insinuer, » répliqua le petit homme. « Je veux simplement vous mettre en garde contre votre nature emportée. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on n'est pas prévenu. C'est pour votre bien que je parle ainsi. » Nos trois personnages marchèrent quelques minutes ensemble, sans plus ouvrir la bouche. Le temps était épouvantable. Un vent de tempête soufflait dans les rues surpeuplées et la neige glaciale volait dans tous les sens. Le petit homme pouvait avoir une cinquantaine d'années. Il avait un visage ridé de vieille sorcière. Il ne lui restait aucune dent, si bien que sa lèvre supérieure avait complètement disparu. Ses vêtements étaient usés, mais propres. On sentait que cet individu aspirait à dégager de la dignité, ce qui n'allait pas sans un certain côté comique. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Changarnier, qui commençait à être agacé par la présence continuelle de cet homme à son côté. « Rien, rien, je me promène. Vous feriez mieux de rentrer chez vous et de laisser le monde tranquille. Mais je ne vous dérange pourtant pas. Si vous me dérangez, je vais tout de même pas changer de direction pour vous faire plaisir. Je vous demande de ne pas marcher près de moi. Mais je ne m'occupe pas de vous. » Changarnier s'arrêta et le petit homme l'imita. « Ah, mais cela dépasse les bornes. Voulez-vous, je vous prie, une dernière fois, continuer votre route ?»« Ben, je ne suppose pas qu'il soit défendu de s'arrêter où bon vous semble. »« Bien, arrêtez-vous si cela vous plaît. Moi, je m'en vais. » Et sur ces mots, prenant le bras de Violette, Changarnier se remit en route. Mais avant qu'il eût le temps de faire quelques pas, l'inconnu lui aussi s'était mis en mouvement. Changarnier pressa le pas, et malgré sa petite taille et son air mal portant, l'inconnu le suivit avec aisance. De nouveau, Changarnier s'arrêta. Mais, comme une ombre, l'inconnu s'arrêta également. « Mais est-ce que vous croyez que cela va durer longtemps, ainsi ?» dit Changarnier. Hors de lui. Est-ce que vous croyez que je suis disposé à laisser le monde se moquer de moi? Est-ce que par hasard vous ne seriez pas fou? Allez, une dernière fois, je vous demande de me laisser tranquille. Mais je vous laisse tranquille. Je vous demande de ne plus me suivre, de ne plus vous arrêter quand je m'arrête, de vous en aller. Mais je suis libre de m'arrêter où il me plaît. Vous n'avez pas le droit de me suivre. Durant ce dialogue, Violette, indifférente, regardait fixement devant elle. Il semblait en proie à une hallucination. Parfois, sans doute parce qu'elle sentait brusquement sa faiblesse s'accroître, elle se serrait contre Changarnier. Ce dernier était rendu méconnaissable par la colère. Il aurait voulu écraser ce petit homme sous son poing, le réduire en bouillie, tellement celui-ci lui portait sur les nerfs. « Mais j'ai le droit d'aller où il me plaît !» continua justement ce petit homme, sur un ton étrange. « Nous avons tous ce droit, et si nous apercevons une porte ouverte sur la lumière, une porte que personne n'a encore vue, ce n'est plus une question de devoir, mais de salut, que de s'y engager. » Changarnier ne comprit rien à ce langage. « Mais que voulez-vous dire » demanda-t-il. « Ben, je veux dire que vos paroles n'ont pas été perdues pour tous. Vous vouliez entraîner le cafetier vers le bonheur. Il n'a pas voulu venir. Tout le monde a ri, mais moi, sans rien dire, silencieux dans mon coin, j'ai compris. Vers le bonheur, oui, c'est cela même. » Le garnier resta muet un instant, durant lequel il laissa aller son regard du petit homme à Violette et de celle-ci à celui-là. Puis soudain, il éclata d'un rire bruyant. « Mais qu'avez-vous ? » demanda le petit homme. « Tu as peut-être la fièvre, » dit Violette. « Mais je n'ai rien, » répondit Changarnier, entre deux accès. « Je ris, mais enfin, monsieur, est-ce que vous êtes fou, oui ou non ? Est-ce que vous n'avez pas subitement reçu un coup sur la tête ?» Interloqué, le petit homme ne répondit pas. « Pauvre inconnu, il va falloir que j'appelle un sergent de ville pour vous conduire à l'hôpital. Là, au moins, on vous soignera. »« Vous voulez chercher un sergent de ville ?» demanda le petit homme avec une touchante ironie. « Deux sergents de ville. »« Malheureux, mais vous savez pas ce que vous dites. Vous parlez. Vous finissez par vous écouter parler. Vous savez pas ce que vous dites, malheureux que vous êtes. » Cette fois, Changarnier ne put se contenir davantage. Saisissant le petit homme par sa cravate, il le bouscula avec violence, puis le poussa contre un mur et l'y maintenant, là quelques secondes. Puis le lâchant, il prit Violette par la main et l'entraîna à grandes enjambées. « Oh, je respire à présent, » dit-il en arrivant sur une place au milieu de laquelle il y avait un square. « Mais qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda Violette, comme si elle venait de se réveiller. « Je sais pas, il voulait nous suivre. C'est un fou ?» Les deux amants se regardèrent. « Mais où est-il ? » demanda avec anxiété Changarnier. Ben, « Tu l'as serré contre le mur. Mais pourquoi nous suit-il plus ? Il a peut-être étourdi. Tu l'as peut-être serré trop fort. » Ils se regardèrent encore, puis sans échanger une autre parole, comme s'ils s'étaient compris par les yeux, ils revinrent sur leurs pas. Ils repassèrent devant le mur contre lequel Changarnier avait brutalement poussé le petit homme. À ce moment, une sueur glacée coula dans le dos du jeune homme. « C'est effrayant !» dit-il à Violette. « Quoi ? Ce que je viens de penser, c'est épouvantable !» « Mais à quoi as-tu pensé ?» La neige tombait toujours. Un vent tiède s'était levé. Et une foule toujours aussi dense courait par les rues, se rencontrant au croisement, se heurtant sans même s'excuser. « Je vais te le dire, » répondit Changarnier. « Mais viens dans ce bar, nous allons prendre quelque chose de chaud. Viens !» Lorsqu'ils furent assis, un lourd silence les environna. « Eh bien, j'ai pensé, » commença Changarnier, « que j'avais tué ce petit homme sans le vouloir, mais qu'il me poursuivait quand même de sa vengeance, qu'il déposait une plainte, qu'il ameutait tout le monde contre moi et que, finalement, On m'arrêtait. On me conduisait en prison. Et devant le juge, j'affirmais que cet homme m'avait continuellement suivi, puis qu'il s'était arrêté quand je m'arrêtais, et que finalement, excédé, je n'avais pu m'empêcher de le roudoyer, sans pourtant avoir seulement eu la pensée de lui donner la mort. Mais le juge me regardait avec incrédulité. Évidemment, vous ne diriez pas le contraire. Je protestais de ma bonne foi. Il sourit. Il était évident que dans son esprit, non seulement j'avais commis le crime, mais je l'avais prémédité. Et c'est à ce moment-là que le petit homme est venu gravement déposer. « Il m'a tué, » dit-il, en me montrant du doigt sans la moindre provocation de ma part. Quand il affirme que je le suivais, il ment. Je marchais simplement derrière lui. D'ailleurs, monsieur le juge, nous sommes tous libres de marcher où nous voulons. « Menteur !» m'écriai-je dans un accès d'impuissance. « Vous m'avez suivi. Il suffisait que je m'arrête pour que vous vous arrêtiez également. Vous êtes un menteur, un infâme menteur. » Et c'est alors que j'eus conscience d'une chose extraordinaire. Il n'y avait pas de témoin, et on le croyait, lui, alors que moi, on ne me croyait pas. Nous étions pourtant tous les deux aussi dignes de foi l'un que l'autre. Mais c'était lui qu'on croyait, et pas moi. Et sais-tu, Violette, pourquoi dans mon songe on le croyait? Non, pourquoi? Tu ne cherches pas, le devinais toi-même. Je cherche, mais je ne trouve pas. Eh bien, je vais te le dire. On le croyait, on croyait tout ce qu'il disait, parce qu'il était mort. Parce qu'il était mort. Parfaitement, parce qu'il était mort. S'il était mort, il ne pouvait parler, encore moins accuser. Mais je te demande pardon, je te parle d'un rêve. Dans ce rêve, la mort ne lui était aucune réalité. Au contraire, elle lui donnait l'apparence d'une victime, d'un martyr. Et par conséquent, elle attirait sur lui la sympathie et la protection de tous. Mais assez parlé de cette histoire. Si nous voulons aller au cinéma, partons, et oublions tout, et partons, et... Il s'interrompit net. Le petit homme était devant lui et le regardait avec des yeux pleins de reproches. « Mais que me veux-tu ? » demanda Jean Garnier. « Mais rien du tout. Mais j'ai tout de même le droit d'entrer dans ce bar. Vous n'allez pas vous imaginer, cher monsieur, que vous seul avez le droit de vous mouvoir. » Mais je n'imagine rien, je vous demande simplement de me laisser en paix et de ne plus vous trouver sur mon chemin. Mais c'est vous, monsieur, qui vous trouvez continuellement sur mon chemin. Si j'avais votre caractère, il y a longtemps que je me serais emporté, faites attention. Jean Garnier se tourna vers Violette. Mais ce Gringalet, tu vois, me conseille de faire attention. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Enfin, oui ou non? Cet homme me laissera-t-il en paix? Oui ou non, suis-je un homme libre? Oui ou non, ai-je le droit de vivre, d'être heureux, de rendre heureux mon entourage? » Un immense éclat de rire accueillit ces paroles. Jean Garnier s'y attendait si peu qu'il en resta interloqué. Mais tout à coup, il fut pris d'une terreur panique. Il fallait quand même que cet homme fût sûr de lui pour le braver ainsi, pour ne point le craindre. Cependant que sa compagne l'exhortait au calme, il se sentait de plus en plus effrayé. « Voilà, pensait-il, où les nerfs me mènent. Oh, je ne sais plus penser. J'ai peur quand il n'y a rien à craindre. Je place trop le moment où je devrais être prudent. Mais quel homme suis-je donc? Ne suis-je pas plutôt une misérable épave sans volonté, sans suite dans les idées ?» Jean Garnier, dans la fièvre qui l'avait envahi, perdait de plus en plus le contrôle de lui-même. Au milieu de cette soirée balayée par la neige, le vent, l'incertitude du lendemain, il se sentait à la fin capable du plus grand courage et de la plus grande lâcheté. « Et si je mourais, » dit-il au petit homme dans son délire, Vous seriez bien content. Mais vous ne pouvez pas mourir, répondit celui-ci avec un air énigmatique. Vous croyez cela? Mais j'en suis certain. Vous ne pouvez, ne devez pas mourir. Tu entends, dit Jean Garnier à Violette. Mais est-ce que je suis fou? Mais tout cela tourne au cauchemar. Allez, allons-nous-en, partons, marchons droit devant nous. Depuis quelques minutes, la neige avait cessé de tomber et l'air, sans flocons, semblait tout à coup inhabité. Violette ôta son manteau de fourrure et le secoua. Durant un instant, les passants purent la voir dans une robe légère, courte, décolletée. Lorsqu'elle se fut recouverte, les deux amants s'éloignèrent cependant que le petit homme les regardait partir. Mais il ne resta pas longtemps immobile. Brusquement, il se mit à courir derrière eux. « Monsieur, monsieur, écoutez-moi, j'ai à vous parler. Il faut que vous m'excusiez. Je me rends bien compte de ce que mon attitude a de bizarre en apparence, mais quand vous m'aurez entendu, vous comprendrez tout. » Le lecteur nous pardonnera d'ouvrir une parenthèse. Qu'il s'imagine nos trois personnages réunis dans la salle éclairée d'un café et qu'il ait la patience d'écouter durant quelques instants parler l'inconnu.